justement, lorsqu'on a parlé des lymphocytes gamma delta, je crois.
C'est ça.
Ouais, c'est ça. Ouais.
De ce que je sais de très très loin.
Ouais, c'est ça. Donc, vous allez nous parler du microbiote pulmonaire.
Oui, alors, vous voulez que je fasse combien de temps?
Oh, combien de temps, Amy?
Pas trop non plus. Hein.
45 minutes, entre 45 minutes et une heure.
Ah, oui,
alors,
non, je vais...
Peut-être
oui.
qu'il y en aura certains qui ont, si ont un train à prendre,
oui,
qui voilà, devront s'éclipser.
Oui,
mais,
bien, ouais. sûr, bien sûr, pas de problème.
Mais, sinon, une heure. Ouais.
D'accord, très bien. Et alors, où est-ce qu'on va? Merci beaucoup aux organisateurs et en particulier au docteur Romain Cor de m'inviter parmi vous. Donc moi je suis bactériologue et donc je suis très, très honorée de pouvoir vous parler de microbiote au sein de votre congrès. Donc je me suis permise de rajouter un petit calico au magnifique logo de votre congrès pour montrer que voilà, au milieu des poumons, eh bien, on a découvert il y a quelques temps qu'il y avait des bactéries et que ce n'était pas forcément synonyme de pathogénicité. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation, j'ai juste on va dire, un fort lien d'intérêt pour les bactéries puisque c'est un petit peu ma matière favorite d'étude. Alors un bref historique pour commencer, mais je trouve que c'est particulièrement intéressant de se pencher sur l'historique du microbiote pulmonaire qui est une histoire finalement récente. Puisqu'en fait, pendant très longtemps, on a pensé qu'un poumon sain était un poumon stérile. Et dès lors qu'on trouvait des bactéries, on subodorait que c'était lié à un processus, on va dire, pathologique. Alors en fait, il a fallu attendre plutôt, on va dire, le 21e siècle. Et en particulier, c'est l'année 2010 qui fait date pour moi avec cette première publication. Où c'est écrit ici, je l'ai surligné, que l'arbre bronchique n'est pas stérile et je pense que c'est une des premières publications, en tout cas de notre siècle, où on a osé écrire ça. Et en fait, les chercheurs qui ont mis ça dans leur résumé, au départ, ce n'était pas forcément leur objectif d'étudier le microbiote pulmonaire. En fait, c'était un consortium qui s'intéressait à l'asthme. Donc, ils avaient pris des lavages bronchoalvéolaires de patients asthmatiques qu'ils avaient passé à la moulinette de ces nouvelles techniques de séquençage au débit hein, qui nous permettent d'identifier les bactéries du microbiote avec l'idée justement de décrire le microbiote pulmonaire en situation d'asthme. Et ils avaient eu la bonne idée de prendre des sujets sains en disant, bon, voilà, pour être sûr que... Voilà. Et en fait, quelle ne fut pas leur surprise que de découvrir que chez les sujets sains, quand ils faisaient du NGS, eh bien, il y avait un signal ADN microbien qui était fortement présent, enfin en tout cas beaucoup plus que ce qu'ils n'imaginaient. Et donc de là, l'histoire est partie de là. Mais alors en fait, alors, vous regardez, vous voyez, c'est 2010 et dont on va dire la grande histoire du microbiote humain. Il y a en fait un gros projet qui a démarré aux États-Unis qui s'appelle le HMP pour Human Microbiome Project. Donc 2008, donc il y a tous les microbiotes, et bien sûr l'intestinal, le vaginal, le cutané. Et quand on regarde, en fait, à cette époque-là, en 2008, les Américains n'avaient pas mis le microbiote pulmonaire, puisqu'en fait, en 2008, on ne savait pas qu'il y avait du microbiote pulmonaire chez les sujets sains. Mais quand on fait la biblio un petit peu plus poussée, donc c'est en dehors de PubMed, je me suis mise à regarder maintenant sur Gallica, sur les bons conseils de mon ami Dominique Lenen, qui fait beaucoup d'histoires de la médecine. Et en fait, je suis tombée sur cette publication, 19e siècle, 1899, donc à l'époque, Pasteur était passé par là, on savait déjà cultiver les bactéries. Et dans cette publication française, ils avaient en fait étudié une vingtaine de cadavres, récupéré leurs poumons, donc ils précisent bien que c'est des poumons de sujets qui ne sont pas décédés d'une pathologie pulmonaire. Ils ont mis ça en culture et j'ai mis la phrase exacte de l'auteur, Becco, un fait important et incontestable, la présence dans la plupart des poumons sains de microbes pathogènes habituels des voies respiratoires, excluant leur pénétration agonique. Donc là, finalement, à mes yeux, ce n'est pas 2010, la première observation du microbiote pulmonaire sain, c'est vraiment 1899. La seule petite erreur qu'ils ont fait dans l'interprétation, mais c'est bien normal, à l'époque, un microbe était forcément pathogène. Donc, ils ont accolé le terme pathogène à microbe et probablement ce qu'ils ont décrit, c'était déjà du microbiote totalement anodin, on va dire commensal. Donc, voilà pour la brève historique. Alors, après, donc on a fait les voilà, early years, mais donc dans cette publication, vous voyez, ils font démarrer 2010 hein, l'histoire du microbiote pulmonaire. Donc, on l'a vu ensemble, ce n'est pas tout à fait vrai, mais on va dire qu'à l'ère moléculaire, c'est 2010. Et puis après, bah, qu'est-ce qui s'est passé en gros pendant les 3-4 premières années, eh bien, l'idée, c'était de prendre tous les types de pathologies pulmonaires, de les passer à la moulinette du NGS et de faire des corrélations. Donc, on a ainsi fait ça avec la BPCO, la mucoviscidose. Nous, on a fait notre part aussi au laboratoire, puisqu'on travaille beaucoup sur la mucoviscidose, les pneumonies et puis d'autres maladies bronchiques. Après, une fois qu'on a eu fait le travail assez taxonomique de bactériologue, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des champignons, des levures, des virus. Enfin, on le savait, mais on a pu l'étudier aussi. Donc, on parle maintenant de microbiome et de virome. Et puis, une fois qu'on a fait le catalogue, bon, c'est sympa le catalogue, mais ça n'excite finalement que les bactériologues, et encore. Après, ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement quelles sont les fonctions portées par ce microbiote qui est situé au niveau pulmonaire, puisqu'on a quand même derrière ça toutes les connaissances acquises sur le microbiote intestinal, avec toutes les données très fortes hein, sur les rôles majeurs joués par le microbiote intestinal. Donc forcément, on s'est posé la même question pour le microbiote pulmonaire. Et donc, on a commencé avec des nouvelles technologies, notamment ce qu'on appelle le shotgun, qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'étude de ces chaînes métaboliques portées par le microbiote, de comprendre un peu mieux la fonction de ce microbiote pulmonaire. Est arrivé le Covid-19, donc là je ne vous cache pas qu'il y a eu un énorme boost dans les publications. Tout d'un coup, tout le monde s'est dit tiens, c'est intéressant le microbiote pulmonaire. Avant 2019, ça restait assez confidentiel. Et puis, là, tout récemment, et je vous en dirai un petit mot, on s'intéresse aussi au microbiote pulmonaire dans tout ce qui est immunothérapie, dans le cancer du poumon, et on se rend compte, de la même manière qu'on l'a constaté au niveau intestinal, que dans la problématique du cancer, eh bien, le microbiote aurait aussi probablement des choses intéressantes à apporter. Voici pour le bref historique. Alors, j'ai commencé par vous faire une brève carte d'identité de ce que c'est que ce microbiote pulmonaire. Je pense qu'on entend beaucoup parler du microbiote intestinal, un peu du cutané, du vaginal aussi, bref. Mais sur le poumon, finalement, on ne sait pas forcément grand-chose. Donc, j'ai essayé de faire assez synthétique. Donc, déjà, en termes de biomasse, qu'est-ce qu'il y a, combien il y a de bactéries? Donc, c'est beaucoup plus faible, bien sûr, que l'intestin. Dans l'intestin, c'est de l'ordre de 10 puissance 11 bactéries par gramme de contenu cécal. Ici, on estime que chez un sujet sain, on est de l'ordre de 10 puissance 5 CFU par millilitre de lavage bronchoalvéolaire. Et quand on fait des biopsies pulmonaires, chez le sujet sain, vous voyez, c'est quasiment rien, c'est 10 puissance 2 à 10 puissance 3. Mais ça suffit pour qu'on se dise qu'il y a quand même une action. Mais la difficulté derrière tout ça, c'est que nous, quand on fait de l'analyse du microbiote pulmonaire, on est assez obsessionnel par rapport au risque de contamination. Comme vous le savez, il y a des bactéries partout, y compris même dans les réactifs de laboratoire. Hein, la TAC polymérase qui nous permet de faire toutes ces séquences, elles contiennent par exemple de l'ADN des Escherichia coli. Donc, en fait, on se rend compte ici, dans ce graphique, que tout ce qui est ce qu'on appelle background, le bleu, eh bien, il peut venir finalement être pris pour du microbiote pulmonaire alors que c'est du contaminome. Donc il y a vraiment cette difficulté là de risque de contamination, difficulté qu'on n'a absolument pas bien sûr quand on étudie le microbiote intestinal. Et puis quand on va sur d'autres méthodes où on fait simplement de l'extraction ADN et conséquence tout de suite après, sans faire de l'amplification spécifique des bactéries, eh bien on est contaminé entre guillemets par une forte proportion d'ADN humain, donc c'est-à-dire qu'on séquence. Ça coûte très très cher et en gros on va mettre plus de 90% des reads, des amplicons générés à la poubelle, puisque moi je ne suis pas généticienne, donc ce qui m'intéresse c'est les bactéries. Donc ça c'est aussi une autre difficulté qu'on n'a pas non plus dans le microbiote intestinal. Donc tout ça pour dire que c'est important, je prêche un peu par ma paroisse, d'avoir des bactériaux qui sont vraiment dédiés à votre organe. Alors, donc c'est la quantité, faible quantité, mais qui semble quelque part un peu contrebalancée par une très forte biodiversité. On a des indices, des métriques qui nous permettent de mesurer, comparer les patients, de regarder l'évolution du microbiote d'un patient. Il y a notamment un indice qui s'appelle l'indice de Shannon, qui est de 3,3. Et en fait, quand on compare les différents microbiotes, notamment le microbiote intestinal, on se rend compte que le microbiote pulmonaire à une biodiversité supérieure au microbiote intestinal. Donc ça, c'est quelque chose qui au départ était un peu surprenante, mais en fait, quand on regarde, on comprend tout à fait pourquoi il y a une belle biodiversité, parce qu'en fait, un poumon, c'est ouvert bien sûr sur l'extérieur, donc on inhale des bactéries, on dit à peu près 10 puissance 5 bactéries par litre d'air, donc bien sûr, on ne les garde pas toutes, heureusement, mais il y en a quelques-unes qui vont pouvoir s'installer. On a l'environnement immédiat hyper densément colonisé du microbiote bucco-dentaire. Donc, il y a un phénomène simplement d'aspiration oropharyngée. Donc, c'est tout le réservoir bucco-dentaire. Bien sûr, tout le tractus respiratoire haut qui va aussi alimenter le tractus respiratoire bas. Et puis, peut-être plus surprenant, peut-être pas pour vous, mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à séquencer le microbiote pulmonaire, je me suis rendu compte qu'on trouvait des bactéries digestive et effectivement le tractus digestif est aussi un autre réservoir qui vient alimenter de manière physiologique par des phénomènes physiologiques de micro-aspiration, alors qu'ils sont majorés bien sûr en cas de RGO, mais on va retrouver des bactéries intestinales. Donc en fait on a des bactéries qui viennent de niches complètement différentes et qui vont faire qu'on a un microbiote au bout du compte qui est très diversifié. Alors après, au départ, quand on a commencé à étudier donc dans les années 2010 le microbiote pulmonaire, on nous opposait toujours le fait que souvent on travaillait sur des expectorations ou même des LBA, mais on nous opposait toujours le fait que il y avait un fort risque de contamination par la flore salivaire. Et donc, en gros, ce qu'on décrivait, c'était du microbiote salivaire et non du microbiote pulmonaire. Donc il y a des auteurs qui ont commencé à se dire ça va être intéressant quand même d'aller regarder avec de manière, on va dire, propre, donc où on prend toutes les précautions pour éviter d'avoir des contaminations. Donc par fibroscopie, ils ont été échantillonnés un petit peu dans tous les lobes pulmonaires. Ils ont fait l'analyse de ce qu'on appelle le contaminome et ils ont été échantillonnés au niveau des voies aériennes supérieures. Et donc, vous voyez, on aboutit à ces cartes qu'on appelle des heat maps, où en gros, en verticale, vous avez toutes les espèces bactériennes. Et puis en horizontale, vous avez le contaminome, les voies aériennes supérieures. Et puis plus vous allez vers la droite, plus vous enfoncez profondément dans le poumon. Et en fait, ce qu'on voit, donc vous voyez déjà dans le contaminome, donc en fait, c'est par exemple le liquide d'OFI qui sert à faire le lavage bronchoalvéolaire. Il y a du signal bactérien, donc il y a bien de la contamination. Mais après, quand vous regardez, vous avez un vrai continuum bactérien taxonomique entre les voies aériennes supérieures et les voies aériennes inférieures. Donc là, ceux qui étaient très critiques disaient, vous voyez, c'est la même chose, donc finalement, c'est de la contamination. Sauf que quand on analyse avec des analyses un petit peu différentes, qu'on appelle de bêta-diversité, donc là, on va regarder toute la taxonomie, mais on va regarder finalement les abondances relatives entre les différents taxons. Donc tout ça, c'est des méthodes d'analyse biostatistique. Bien finalement, on voit bien sur ces échantillons que les prélèvements de lavage bronchoalvéolaire sont vraiment différenciés des prélèvements qui soient bucco-dentaires pour les mêmes patients, bien sûr, et les prélèvements nasaux. Donc finalement, la conclusion, c'est que certes, on a bien la même taxonomie, mais les abondances diffèrent entre les sites anatomiques. Ça veut dire qu'on a vraiment, on va dire, un écosystème qui est différencié et une sélection de certaines bactéries par rapport à d'autres. Donc on a un vrai microbiote bronchopulmonaire. Donc après, je vous ai dit, carrefour microbien, forte biodiversité, et on le voit très bien, je trouve, dans cette belle cartographie. Alors, elle est un petit peu compliquée, mais je vous invite à regarder que les grands camemberts, puisque ce sont les bactéries. Donc moi, je vais vous parler que de bactéries, puisque je fais que de la bactériologie. Et donc, on compare les différents sites anatomiques en termes de taxonomie bactérienne. Alors maintenant, on parle beaucoup en termes de phyla, donc en gros, c'est un des plus grands taxons dans la taxonomie bactérienne. Et on a quatre grands phyla, les actinobactériens en rouge, les bacteroidetes en jaune, les firmicutes en vert et les proteobacteria en bleu. Je vais essayer de ne pas trop vous perdre. Et en fait, en gros, ce qui fait qu'on est au niveau cutané, au niveau intestinal ou au niveau pulmonaire, c'est simplement l'abondance relative entre ces différents phyla qui change et qui fait que c'est soit du gut, soit soit du lung. Okay. Et donc, ce qui est frappant, dans ce schéma, c'est quand on regarde le gros camembert, eh bien, on voit qu'il y a une similitude entre les poumons et l'intestin en termes de proportions relatives, notamment sur la partie jaune du camembert, qui sont les bactéroïdétes, qui sont tout simplement des bactéries anaérobies strictes. Donc, dans l'intestin, on le sait tous, il y a 99% de bactéries anaérobies, c'est logique. Mais quand on regarde le deuxième site anatomique qui est naturellement colonisé par des bactéries anaérobies, eh bien, c'est pas la peau, c'est pas la bouche, ce sont les poumons. Donc ça, c'était une première notion vraiment totalement nouvelle. On n'imaginait pas ça, surtout que nous, dans nos laboratoires, on fait que de la culture aérobie. Donc en fait, on passait complètement à côté de ces anaérobies. Donc on estime à l'heure actuelle qu'à peu près 50% des espèces pulmonaires chez le sujet singe, j'insiste, sont des bactéries anaérobies strictes. Donc un peu à l'image de l'intestin. Alors après, il y a des auteurs, notamment Bob Dixon aux États-Unis, qui a fait des très beaux travaux pour essayer d'un peu mieux cartographier tout ce microbiote pulmonaire. Il a montré que la zone la plus densément peuplée de microbes, c'est au niveau de la carène, forcément, c'est là qu'il y a le carrefour, finalement, aérodigestif. Et donc, dans ces données, on voit bien qu'on a à peu près 50% de bactéroïdétes. Donc ça, c'est un terme que je me permettrais de réutiliser, puisque ce sont nos fameuses bactéries anaérobies qui m'intéressent tant. Alors, quand on va un petit peu plus loin dans la taxonomie, parce que probablement que bactéroïdétes, ça ne vous parle pas trop. Par contre, si je vous dis Streptococcus, Prévotella, Veillonella, Porphyromonas, ça, ce sont vraiment les principales espèces. Donc ça, c'est une étude qui est sortie dans Nature Communication en 2021 sur des lavages bronchoalvéolaires. Et ils ont à la fois regardé en termes de prévalence chez tous les patients qui avaient été prélevés et également en termes d'abondance. Et en fait, le quatuor qui est sorti en tête, qui avait à la fois l'abondance et la prévalence, c'était donc streptocoque, prévotella, veillonella, porphyromonas. Donc les streptocoques viennent de la bouche, certainement. Prévotella, veillonella, porphyromonas, on ne sait pas trop. Il y a probablement un mélange de plaques dentaires et peut-être aussi d'origine digestive. Donc vous voyez, les trois derniers, porphyromonas, veillonella, prévotella, ça, ce sont des bactéries anaérobies strictes. Donc ça, c'était vraiment la preuve définitive que nos poumons sont habités par des bactéries qui détestent l'oxygène, puisqu'en fait, l'oxygène les tue. Alors, quand on a commencé la grande aventure du microbiote pulmonaire avec nos partenaires de Peraridi, du CRCM de Roscoff, donc on était sur la mucoviscidose, et moi j'avais ma jeune assistante qui est maintenant PH, Claudie Lamoureux, qui faisait son Master 2 sur cette problématique, et je lui avais dit, écoute, on va commencer comme fait tout le monde, on va faire une review pour avoir un peu un état, une cartographie claire de l'intérêt de ces anaérobies dans le poumon. Et en fait, on n'arrivait pas à synthétiser le message, donc on a fait ce schéma sous forme de yin et de yang. En gros, l'idée, c'était de montrer qu'on trouvait autant de publications qui montraient qu'il y avait un impact plutôt délétère des bactéries anaérobies dans le poumon et autant de publications qui avaient un impact plutôt positif sur la fonction respiratoire. Donc on s'est dit, ça justifie d'autant plus qu'on fasse nous-mêmes notre propre étude. Donc on a lancé cette étude multicentrique prospective. Cette étude observationnelle multicentrique et prospective, on est allé chercher les bactéries anaérobies à la fois par des techniques moléculaires, mais moi ce qui m'intéressait c'était d'avoir les souches, parce que l'ADN c'est bien, mais après on n'en fait pas grand chose, une fois qu'on a dit que c'est là, ça s'arrête là. Donc elle a développé, ça a été un travail presque de titan, on avait 101 patients inclus avec nos amis grâce à nos amis de Peraridi, inclus dans l'étude. Et on est allé chercher en culture omique, donc la culture omique, c'était 3 semaines de culture, alors que d'habitude on fait 2 jours, on multipliait les milieux et puis on allait identifier tout ce qui poussait grâce à la spectrométrie de masse MALDI-TOF. Et en fait, donc, elle a identifié une très grande diversité bactérienne également par ces techniques culturales, là où on permettait finalement aux bactéries anaérobies de se plaire et de pousser. On a trouvé en moyenne, vous voyez, 6 espèces anaérobies par crachat, ce qui est quand même très important. Et alors après, on avait les data cliniques et elle a montré que le genre Veillonella était corrélé positivement à la fonction respiratoire chez les patients mucaux. Donc, une de nos conclusions, c'était que chez les patients mucaux, certains genres bactériens probablement avaient un rôle vraiment positif sur la fonction respiratoire. Bon, ça reste de la corrélation, on n'est pas sur la causalité, mais c'est une première partie de l'histoire. Après, il y a d'autres publications qui sont venues renforcer l'intérêt, plutôt le rôle plutôt positif de ces anaérobies. Donc, je recite cette même publication. Donc, j'avais oublié de dire tout à l'heure, c'était sur des transplantés pulmonaires. Donc, ils ont fait la même chose. C'était des lavages bronchoalvéolaires. Et là, ils ont décrit, on va dire, trois pulmotypes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré que le pulmotype qui correspondait à une belle richesse, une belle biodiversité en anaérobie, c'était associé en fait à une meilleure stabilité post-transplantation. Et donc l'hypothèse développée par ces auteurs, c'est que en fait les anaérobies, un peu à l'image de ce qu'on retrouve au niveau de l'intestin, eh bien exercent une meilleure activité immunomodulatrice et finalement seraient un facteur de pronostic favorable sur le suivi en post-transplantation. Donc peut-être que dans quelques années, on pourra vous faire les suivis de vos transplantés avec un simple dosage des bactéries anaérobies. Alors justement, on va rentrer un petit peu dans la physiopathologie, justement, pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qu'apportent ces bactéries anaérobies. Donc là, l'organe fait qu'on a souvent recours quand même à la souris, c'est un peu plus pratique. Et donc dans cette publication, aussi une grosse publication, ils ont travaillé sur des petits souriceaux et en fait ils ont suivi la maturation du microbiote pulmonaire en fonction de l'âge des souriceaux. Et donc ils ont montré que les deux premières semaines de vie, il y avait une augmentation de la biomasse microbienne pulmonaire. Et puis ce qui était intéressant, c'est que vous voyez à partir du 14e jour de vie du souriceau, apparaissaient les fameuses anaérobies de type bactéroïdétes qui n'étaient pas présents au tout début. Et en fait, l'émergence de ces bactéroïdétes était liée à l'émergence des lymphocytes T-régulateurs dépendants de PD-L1. Et qu'en fait, chez les petits souriceaux qu'on soumettait à des aéroallergènes, eh bien, l'émergence de ces bactéries anaérobies était très importante pour favoriser la tolérance à ces aéroallergènes. Aéroallergènes. Et si on traitait les souriceaux par des antibiotiques large spectre, on annihilait en fait leur tolérance vis-à-vis des aéroallergènes. Donc finalement, l'idée c'est de se dire que peut-être ces anaérobies participent à l'éducation du système immunitaire et ce dès le plus jeune âge, dès quasiment les suites de la naissance. Autre publication qui nous vient d'une équipe française qui s'intéressait là aussi au microbiote pulmonaire et son intérêt vis-à-vis de l'immunité. Donc, quand on travaille sur le microbiote, il y a deux façons de faire. Soit on met des antibiotiques pour voir l'effet que ça fait, soit on travaille sur des souris axéniques. Et donc, c'est vrai qu'à l'INRAE, ils ont la chance d'avoir une animalerie axénique. Et donc, ils ont regardé comment réagissaient des souriceaux qui étaient axéniques. Et ils ont montré qu'en fait, il y avait une surexpression des TLR4 chez les souriceaux axéniques qu'on soumettait à une infection par le virus respiratoire syncytial. Et donc, cette surexpression des TLR4, qui reconnaît finalement le VRS, était associée à une réaction inflammatoire beaucoup plus précoce, plus intense chez les souris axéniques, les souris ici en rouge germ-free. Donc finalement, la conclusion, c'est que la tolérance immunitaire viendrait aussi de la présence de bactéries dès le plus jeune âge au niveau pulmonaire. Alors, autre publication que je trouve intéressante, puisque là, c'est aussi souvent comme ça qu'on fait dans les études de microbiote. Une fois qu'on a fait des corrélations, eh bien, on peut faire des transferts de microbiote pour apporter la preuve, pour passer de la corrélation à la causalité. Et c'est ce qu'ont fait ces auteurs. Donc, c'est une publication 2016 dans la JRCCM. Ils ont élevé des petites souris qu'ils ont soumis, je crois que c'était du LPS pour mimer en fait la BPCO. Ils ont récupéré le microbiote pulmonaire de ces souris qu'ils ont ensuite transféré par instillation nasale. Ça se fait très bien, nous on le fait au laboratoire. Ils ont instillé à des souris qui étaient parfaitement normales sur le plan pulmonaire et ils ont reproduit le phénotype hyper-inflammatoire par simple transfert de microbiote pulmonaire. Donc là, on avait une jolie preuve, on pouvait transférer le phénotype hyper-inflammatoire simplement par un transfert de microbiote pulmonaire. Alors au final, on arrive à se dire que, bon, je suis ici un peu pour prêcher pour ma paroisse, mais que quand on s'intéresse aux poumons comme vous, eh bien c'est pas mal de faire peut-être pas au cœur. Alors ça, c'est un topo que je fais souvent pour les bactériaux. Donc, je mets le microbiote au cœur de la sphère pulmonaire. Mais peut-être pour vous, lui faire quand même une petite place en se disant que ce microbiote pulmonaire participe à l'immunomodulation, que ce soit dans un rôle de booster, j'y viendrai juste après, ou dans un effet tolérogène. Pardon. Et alors, il y a un autre rôle qui... Alors, il n'y a pas beaucoup de publications, mais il y a une jolie publication qui est sortie il y a quelques années qui montre que aussi le microbiote pulmonaire agirait même sur l'architecture pulmonaire et que des souris axéniques auraient finalement beaucoup moins d'alvéoles pulmonaires, que ces alvéoles pulmonaires seraient beaucoup plus grosses. Et donc, finalement, il y aurait une diminution de la capacité alvéolaire simplement par l'absence de microbiote pulmonaire. Donc, on en vient à se demander s'il n'y a pas directement aussi un rôle de ce microbiote sur l'architecture pulmonaire et sur la maturation du poumon. Alors, je vous ai dit, mais c'est juste pour que vous ayez en tête, mais je m'arrêterai là sur cette partie que je ne connais pas, le microbiome. Donc, il y a des bactéries. Quand on dit microbiote, on pense essentiellement aux bactéries. Mais il y a nos amis mycologues qui vont travailler sur le microbiome. Donc là, ils ont la chance, comme pour les bactériaux, d'avoir des gènes universels qui leur permettent d'amplifier, de regarder uniquement les fongies dans le poumon. Et par contre, nos amis virologues ont un peu plus de mal parce qu'il n'y a pas de gène universel chez les virus. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué d'étudier le virome. Mais j'ai ma collègue virologue, le docteur Sophie Vallet, qui a commencé à mettre au point et à générer quelques premiers résultats. Mais c'est très compliqué. Et puis, alors ça, c'est un travail qu'on a pu mener avec Pauline Martinet. Je crois qu'elle vous a fait une présentation sur la tularémie pulmonaire. Elle était en master au laboratoire et on a fait l'étude des gènes de résistance. Donc, on parle de résistome. Et là, dans le domaine de l'antibiorésistance, c'est aussi une nouvelle façon d'aborder la problématique, voir l'impact d'une antibiothérapie, par exemple, au long cours ou, par exemple, les macrolides que vous aimez plutôt bien. Et on avait regardé, en fait, on a regardé l'impact des macrolides sur le microbiote pulmonaire. Donc là, il y a encore de nombreux travaux à mener. Alors, le microbiote pulmonaire, et c'est là aussi c'est compliqué, c'est un microbiote qui n'arrête pas de changer. Donc voilà, on fait un instant T, et en fait, l'idéal, ce serait de pouvoir faire plein de prélèvements sériés. Donc c'est vrai que c'est vraiment nécessaire de conduire des études longitudinales. Et donc, il y a des auteurs qui ont montré que ce dynamisme, ce microbiote qui n'arrête pas de changer, finalement, c'est important parce que dans leur scénario, ils montrent que finalement, les phénomènes de micro-aspiration de microbiote salivaire qui viennent finalement, qui se retrouvent au niveau alvéolaire, c'est physiologiquement important puisqu'en fait, ça permet d'entretenir cette espèce de tonus immunitaire qui permet aux poumons de se défendre plus facilement, d'être prêts, d'avoir une immunité prête en cas d'attaque par des bactéries pathogènes. Donc en fait, ce système sans cesse comme ça d'inhalation ou de micro-aspiration de bactéries orales avec Prevotella, Streptocoque et Veillonella, notamment les anaérobies, eh bien, ça permettrait de stimuler la réponse Th17, également bien sûr l'éthéreg, et donc ça permettrait d'entretenir toujours la stimulation du système immunitaire. Et donc vous voyez, c'est pour ça que quand on fait des cultures, parfois on n'a pas grand-chose, on retrouve du signal ADN, mais globalement il y a beaucoup de bactéries qui sont lysées sur place par justement ce système immunitaire. Mais le fait qu'elles entrent a une vraie vocation pour entretenir ce système immunitaire. Et donc, ça, c'est le scénario quand tout va bien. Et par contre, quand il y a un déséquilibre qui commence à arriver, eh bien, le dynamisme, ce cercle incessant de micro-aspiration va céder la passe plutôt à... Il va y avoir un déséquilibre, ce qu'on appelle une dysbiose, avec l'installation finalement de bactéries pour lesquelles le système immunitaire sera complètement débordé. Et donc, c'est là que commenceront les problèmes. Ah. Je ne sais pas où est-ce qu'en fait... Oui. Ah oui, c'est là-bas, oui. Et donc voilà, donc c'est ce qui est proposé en termes de physiopathologie de la BPCO. Donc sujet sain, stimulation immunitaire, notamment Th17, par ces bactéries endogènes orales. Et puis vous voyez, au fur et à mesure qu'on rentre dans des stades de Gold plus élevés, eh bien, le phénomène de micro-aspiration augmenterait. Donc s'installe ce qu'on appelle la dysbiose, avec notamment une dysbiose métabolique, puisque les bactéries sont tuées, mais elles vont libérer plein de métabolites. Et en fait, ces métabolites vont faire qu'il va y avoir une hyperinflammation des voies aériennes inférieures. Et puis, au bout d'un moment, de quelques années, un épuisement immunitaire. Et donc, finalement, au stade avancé de la BPCO, au grade 4, eh bien, on a finalement la porte ouverte pour toutes ces bactéries qui, cette fois-ci, ne sont plus des bactéries endogènes, mais des bactéries qu'on appelle saprophytes, des bactéries environnementales, avec l'exemple type qui est Pseudomonas aeruginosa, qui là, du coup, a un boulevard pour pouvoir s'installer. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on peut essayer d'être beaucoup plus précoce pour voir arriver cette dysbiose avant que ce ne soit trop tard et que ce soit la porte ouverte aux pathogènes. Alors, cette réflexion que je viens de partager, finalement, on peut l'avoir pour toutes les maladies respiratoires chroniques et on peut se dire que ce microbiote pulmonaire peut être un peu comme une façon de trouver des biomarqueurs, une signature microbienne selon le terrain. Et vous voyez sur cette publication, ce que je trouve très intéressant, ils ont fait du microbiote pulmonaire à partir de lavages bronchoalvéolaires de différents types de pathologies. Bon, bien sûr, il y avait des sujets sains, transplantés pulmonaires, fibrose pulmonaire idiopathique, patients BPCO. Et en fait, ce qu'on voit bien, c'est que les prélèvements se clusterisent en fonction de la pathologie de départ du patient. Donc, il y a comme une espèce de signature microbienne propre à chaque pathologie. Et ça fait référence à ce qu'on appelle le concept de phénomics, où on se dit, en fait, les généticiens n'ont que le génome. Après, nous, on peut faire du phénotype. Mais finalement, le microbiote, il est à la fois l'image du génome ou de la pathologie sous-jacente du patient. Il est également le reflet de l'environnement. Et donc, c'est ce qu'on appelle le phénomics. Et grâce au microbiote, on peut finalement, en une seule analyse, l'idée, ça reste du concept, faire la synthèse entre l'hôte et l'environnement. Et donc, derrière, d'avoir des biomarqueurs intéressants pour vous aider dans le suivi de vos patients. Alors, quelques exemples. Ça, c'est une très belle étude qui a eu lieu il y a quelques années, qui est sortie dans l'ERJ, puis il y a eu aussi un thorax en 2018 sur la BPCO, donc c'est l'étude COPD-MAP, étude longitudinale, prospective, donc super, multicentrique, donc 2 ans, 3 centres, il y avait plus de 280 patients, 716 expectorations, donc là ça commence à faire du volume. Alors, ils ont fait une approche uniquement taxonomique, mais une des premières données qui est peut-être un peu contre-intuitive, c'est qu'ils ont montré que entre l'état stable des patients et leurs exacerbations, finalement, le microbiote ne changeait pas. On aurait pu imaginer qu'il y avait une dysbiose dès les exacerbations. Visiblement, ce n'est pas le cas. Par contre, ce qui est intéressant dans ce papier, c'est qu'ils ont pu typer finalement le type d'exacerbation en fonction du microbiote. Et ils montraient très bien dans ce papier que selon que l'exacerbation pulmonaire était à neutrophile ou à eosinophile, eh bien la signature microbienne était différente. Et notamment dans les exacerbations à neutrophile, on avait une diminution de la diversité au profit de la prolifération des protéobactéria. Les protéobactéria, c'est quoi? Ce sont essentiellement les entérobactéries et les pseudomonas et apparentés. Alors, on retombe sur des trucs un peu connus quand même. Autre données, cette fois-ci pour l'asthme, alors c'est un peu la même philosophie, mais ils ont montré que, alors là c'est des analyses en réseau un petit peu plus complexes, mais on voit bien que finalement les populations microbiennes travaillent ensemble, et là il y avait un groupe de taxons, Gemella, Porphyromonas, Streptococcus, donc globalement du microbiote d'origine plutôt salivaire, qui était en corrélation négative avec le pourcentage de neutrophiles dans les expectorations. Donc ça, ce sont des travaux très intéressants, mais bien sûr, on n'est pas encore prêt à vous proposer des biomarqueurs, mais l'idée, c'est d'affiner de plus en plus pour peut-être après, avec un panel par PCR, un panel de bactéries sans faire du microbiote, une simple PCR, l'idée, c'est d'avoir un panel et d'essayer de un peu mieux comprendre où on en est dans les exacerbations chez les patients BPCO ou asthmatiques. Alors, autre publication que j'ai trouvée très intéressante, elle nous vient de Chine. Alors, c'est vrai qu'en Chine, ils ont la force du nom. Et puis, alors là-bas, ils ont toutes les données. C'est l'avantage de faire la recherche clinique en Chine. C'est qu'il n'y a pas trop de données manquantes. Et donc, ils ont fait une étude dans la province du Guangdong. Alors, je ne connais pas, mais visiblement, il y a des zones très polluées et des zones beaucoup moins. Et là, donc, ils ont fait du shotgun métagénomique. Donc là, c'est, on va dire, la Rolls-Royce de l'approche du microbiote. Donc, ils ont montré à la fois des variations taxonomiques, des variations fonctionnelles au niveau du bactériome, du microbiome, et ils ont également fait du résistome et du virulome. Et ils ont montré que c'était variable en fonction de la zone géographique, ce qui fait que moi je me dis que pour les études, il faut essayer d'avoir des études au maximum multicentriques pour ne pas avoir un effet centre. Et là, ils montrent très clairement que chez ces BPCO, donc il y en avait plus de 1600, il y avait un fort impact de la pollution sur le microbiote pulmonaire. on le supposait, on avait quelques données in vitro, quelques données comme ça épidémiologiques, bien sûr, vous connaissez bien la problématique de la pollution, mais là, c'est vraiment prouvé qu'il y avait une corrélation forte entre la dysbiose pulmonaire et les zones hyperpolluées. Donc quand on voit ça, on se dit, mais est-ce qu'il y a, donc on sent que c'est une évolution qui se fait plus ou moins au long cours, et on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de prédire cette pathologie pulmonaire à travers le microbiote, qui est finalement un capteur très fin des modifications qui ne se manifestent pas encore par des symptômes. Et donc nous, c'est ce qu'on s'est dit au niveau de notre problématique en mucoviscidose. Alors comme vous le savez, en mucoviscidose, la problématique, c'est notamment l'arrivée du bacille pyocyanique. Et c'est vrai qu'après quelques années de traitement, une fois qu'on a éradiqué, une fois que la colonisation s'est installée, on arrive à des phénotypes comme celui-ci sur la photo que j'ai prise, hein, un pseudomonas aeruginosa hypermucoïde. Et donc là, on fait des cures antibiotiques, mais on sait très bien que c'est impossible à éradiquer. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de prédire en fait le point de bascule au niveau de la dysbiose pulmonaire qui fait que le patient est beaucoup plus à risque de s'infecter avec le bacille pyocyanique. Donc ça, c'est une étude qui est en cours d'être menée. Donc on avait déjà identifié avec une étude pilote des biomarqueurs. On a identifié notamment un taxon bactérien qui diminue avant l'arrivée du bacille pyocyanique. Et donc, on est en train de faire une étude de réplication, de corps de réplication, cette fois-ci à l'échelle multicentrique dans toute la France. Elle terminera en 2026. Donc, bien sûr, j'ai hâte d'avoir les résultats, mais c'est un travail de longue haleine. On est sur six années de suivi pour attendre que certains petits patients se colonisent à Pio. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bon, on a une population à risque dépistage à la naissance. On sait qu'ils vont être plus à risque de faire des infections, mais on a montré que certains patients avaient un sur-risque d'infection à bacille pyocyanique. Donc le tout, ce n'est pas de dire on a identifié un sur-risque grâce aux biomarqueurs. L'idée, c'est de se dire peut-être qu'on pourrait essayer d'intervenir précocement avant que le pio soit là pour essayer de rediriger le tir, faire en sorte que l'effet barrière du microbiote au niveau pulmonaire joue à plein et permette d'écarter de nouveau le risque. Donc on en vient finalement maintenant à se dire est-ce qu'une intervention précoce par bactériothérapie pourrait être intéressante au niveau pulmonaire. Alors ça, cet aspect prédiction, j'y reviendrai sur l'aspect thérapeutique, mais l'aspect prédiction semble aussi très intéressant, vous me le confirmerez, mais je pense que oui, dans tout ce qui est immunothérapie du cancer. Et il y a une publication qui est sortie il y a quelques années, il y a deux ans, dans GCI Insight, donc gros papier. Il n'y avait pas beaucoup de patients, mais en fait, ils ont regardé l'impact de l'immunothérapie et surtout, ils ont essayé de chercher au niveau du microbiote pulmonaire des différences entre les patients répondeurs et les patients non répondeurs au nivolumab. Donc un checkpoint inhibiteur. Et en fait, ils ont montré, alors c'est la courbe en rouge, c'est pas très grand, je suis désolée, mais vous voyez peut-être mieux, oui. La courbe en rouge, c'est les non-répondeurs, et on voit très clairement sur ce schéma que la biodiversité, les OTUs et les taxons bactériens, est statistiquement plus faible chez les non-répondeurs. Donc ça, c'était chez les 12 patients. Donc ils sont allés plus loin pour essayer de savoir quelle était vraiment, si ce n'était pas juste une corrélation, s'il y avait vraiment une causalité dans cette baisse de biodiversité. Ils sont passés chez la souris, donc souris qu'on traite avec bien sûr cette immunothérapie, deux groupes de souris, un groupe traité avec de l'eau et un groupe traité avec une antibiothérapie large spectre. Et en particulier, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont mis du métronidazole, donc un anti-anaérobie comme vous le voyez. Et là, ils ont très bien montré dans leur publication que chez la souris, eh bien, les souris, on voit c'est le graphique en B, on mesure la taille de la tumeur pulmonaire. Les souris qui avaient bénéficié du traitement par immunothérapie plus de l'eau, il y avait une diminution statistique de la taille de la tumeur du cancer pulmonaire. En revanche, le groupe de souris qui avait eu au préalable un traitement antibiotique large spectre, eh bien, il y avait une diminution qui n'était plus significative de la taille de la tumeur. Ils ont dosé après une chimiokine qui est intéressante dans le traitement du cancer, qui est la CXCL9, et ils ont montré qu'il y avait une diminution de la CXCL9, de cette chimiokine qui exerce un effet chimiotactique pour les CD8 notamment. Et donc, il y avait une diminution de cette sécrétion de chimiokines chez les souris qui avaient été traitées par antibiothérapie. Donc ça, c'est un très joli papier qui apporte vraiment la preuve que le microbiote, de la même manière que ça a été montré par Laurent Zitvogel à l'Institut Gustave Roussy dans le traitement du mélanome, que le microbiote, en fait, en fonction du microbiote de départ, eh bien, les patients seraient plus ou moins à risque, enfin, seraient plus ou moins, auraient plus ou moins de chances de répondre au traitement. Alors, du coup, une fois qu'on a fait, on a objectivé la possibilité de prédire soit un traitement, soit l'évolution d'une pathologie. Bien sûr, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut guérir ou en tout cas prévenir par une thérapie pour le poumon. Et donc, c'est là que rentre en jeu ce qu'on appelle l'axe intestin-poumon. On sait d'ores et déjà que le microbiote intestinal, qui est quand même le chef d'orchestre de beaucoup de choses au niveau de la santé, y compris la santé pulmonaire, intervient de manière majeure. Ça s'explique par le fait que les bactéries intestinales, notamment les anaérobies, vont produire des molécules qu'on appelle les acides gras à chaîne courte, qui sont des molécules qui vont être capables de diffuser un petit peu partout dans le corps et qui ont un effet immunomodulateur très très fort. Et d'ailleurs, on a beaucoup de données qui montrent que quand il y a des pathologies intestinales, et bien souvent, on a derrière après des pathologies respiratoires. Donc c'est vraiment un axe très intéressant. Donc là, on se dit, et certains se sont dit, bah, peut-être qu'en traitant la dysbiose intestinale, et bien, c'est une façon d'atteindre le poumon et de prévenir certaines pathologies. Et puis l'autre voie qui vous semble probablement plus naturelle, c'est la voie pulmonaire. Et donc d'autres équipes, dont la nôtre, se sont dit que peut-être, là aussi, on pourrait directement faire de la bactériothérapie en utilisant ce qu'on appelle des probiotiques de nouvelle génération. L'idée, ce n'est pas d'utiliser des probiotiques qui marchent sur l'intestin, on n'a pas le même écosystème entre l'intestin et le poumon, mais de trouver des bactéries d'intérêt au niveau pulmonaire. Et donc, on parle maintenant de bactéries médicaments qu'on dénomme LBP hein, dans la nouvelle dénomination pour Live Biotherapeutics Product. Donc, on est vraiment sur la biothérapie, la bactériothérapie. Alors, un gros papier qui vient montrer l'intérêt de la voie orale, c'est ce papier qui est sorti dans Nature en 2017, qui s'intéressait à des nouveau-nés dans les populations indiennes. Donc, ils ont inclus 4000 enfants. Il y avait 2000 enfants qui étaient traités par une formule symbiotique, donc avec un lactobacillus, un plantarum et son petit sucre qu'on appelle un probiotique. Donc les deux, ça donne une formule symbiotique orale. Et donc 2000 enfants qui recevaient pendant 7 jours ce traitement, donc entre le deuxième et quatrième jour de vie, versus 2000 enfants qui avaient reçu un placebo. Et ils ont montré que dans le bras des enfants qui avaient été traités par cette formule symbiotique, il y avait 42% de réduction de sepsis et un tiers de moins d'infection du tractus respiratoire inférieur. Donc là, c'est vraiment un joli papier qui montre qu'on peut agir et prévenir finalement le risque infectieux pulmonaire par une approche probiotique. Et puis, alors là, je ne peux pas pouvoir vous donner beaucoup de résultats parce qu'on est encore en train de déposer des brevets, mais ça fait quelques années qu'avec ma collègue Rosane Lebert, qui est infectiologue au CHU de Brest, on travaille sur du coup une approche plutôt par aérosol. Alors on a des données intéressantes chez la souris où quand on infecte la souris avec du bacille piocyanique, on arrive en fait à réduire les symptômes de l'infection pulmonaire grâce à un traitement prophylactique avec des probiotiques d'origine pulmonaire qu'on a dûment sélectionné au préalable, et on a comme ça un renfort de la barrière épithéliale, on le voit très bien par microscopie. On a un effet anti-inflammatoire en mesurant les cytokines et chimiokines dans le LBA des souris, et également quand on fait l'ensemencement pour compter les bacilles piocyaniques, on a une diminution de 1 à 2 logs de la quantité de bacilles piocyaniques dans le poumon. Donc voilà ce qui est en train de commencer à arriver. Alors, il y a encore beaucoup, beaucoup, comme vous le savez, de chemin à parcourir pour que ça arrive jusqu'à vos patients. Mais c'est une possibilité, ce sera peut-être une possibilité à l'avenir de proposer de la bactériothérapie chez des patients chez qui on aura objectivé au préalable une dysbiose pulmonaire et essayer de rediriger le tir. Donc, je vous invite, je trouve que cette référence, je vous laisserai mon diaporama si vous le souhaitez, Cette référence, elle est très bien parce qu'en fait, elle fait vraiment toute la synthèse du futur en pneumologie en lien avec tout ce que je viens de vous raconter sur le microbiote. Il y a pas mal d'essais cliniques. Alors, on est loin des essais cliniques dans l'immunothérapie du cancer, bien sûr, mais il y a quand même quelques essais cliniques qu'on retrouve sur Clinical Trial dans différentes pathologies, l'asthme, BPCO, muco, fibrose pulmonaire, bronchiectasie, DDB, cancer pulmonaire, bien sûr, et d'autres pathologies où finalement la brique du microbiote pulmonaire a été rajoutée aux essais cliniques. Et donc, en conclusion, l'idée, bien sûr, c'est de vous dire que derrière potentiellement ce microbiote, on a des outils pour aller vers la médecine capée avec médecine prédictive personnalisée. Dans les essais cliniques, je pense que c'est aussi un moyen intéressant de stratifier les patients selon leur microbiote, de monitorer les patients. Médecine préventive, donc l'idée, c'est ce que je vous ai dit avant, c'est de reprogrammer, d'avoir une intervention thérapeutique. Alors, que ce soit avec des probiotiques ou carrément une greffe de microbiote pulmonaire à l'image de ce qu'on fait déjà au niveau intestinal. Et puis, le quatrième P, c'est la médecine participative. Et là, c'est vrai que l'axe intestin-poumon a tout son sens. Et comme vous le savez, l'apport en fibres dans la BPCO permet de ralentir finalement le processus pathologique. Et donc, derrière ça, c'est aussi une façon pour un patient de se réapproprier sa santé respiratoire. Et puis également, le sport. Il y a des publications qui montrent qu'il y a un effet positif sur la biodiversité du microbiote pulmonaire par la pratique du sport de manière, bien sûr, encadrée. Et ne pas oublier le cinquième P. On y tient tous beaucoup. Vous avez eu un topo par Irène. Bien sûr, la médecine par la preuve. Il y a beaucoup de fausses choses qui circulent sur le microbiote. Alors c'est vrai, on s'emballe, c'est nouveau, mais il faut toujours essayer de retrouver des choses rationnelles pour essayer d'éviter de raconter trop n'importe quoi. Un petit coucou à ma Dream Team à Brest, dans l'équipe Pinserm. Et voilà, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre, enfin de tenter d'y répondre.
Je vous avais déjà entendu à la CPLF, là.
Ah oui.
C'était déjà top. Et là, c'est encore
moi, j'espère que ça ne faisait pas trop de redites.
Après, c'est un peu vertigineux pour nous, les cliniciens, parce que ça nous ouvre sur un monde qu'on ne connaît pas. Mm. Ça nous fait aussi rond humble, parce qu'on dit tout ce qu'on ne connaît pas, ça fait peur. Oui, Daniel ?
Ah oui, mais c'est une excellente question. Alors, sur le microbiote pulmonaire, je n'ai pas lu d'études. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été étudié. Mais par contre, c'est vrai que ça a été très bien montré au niveau du microbiote intestinal. Alors, le microbiote intestinal, on le comprend aisément parce qu'avec des changements de pH, ça va provoquer, ça va aider à faire de la dysbiose intestinale. Et donc là, c'est clairement prouvé dans des grandes études épidémiologiques. Il y a certains médicaments qui ressortent comme participant à la dysbiose. Bien sûr, il y a les antibiotiques, mais en fait, on s'est rendu compte que 10 à 20% des thérapeutiques parmi les plus courantes que l'on donne à nos patients, eh bien, il y a un effet majeur sur le microbiote intestinal. Et donc, les inhibiteurs de la pompe à protons ont été clairement identifiés comme faisant partie de ces grands perturbateurs de la dysbiose intestinale. Donc, vu ce que je vous ai dit, je vois que vous êtes déjà allé à la conclusion sur l'axe intestin-poumon. Il est probable aussi qu'il y ait un effet, mais il faudrait que je regarde. J'ai rien lu en ce sens, mais c'est vrai que ça mériterait d'être étudié de très près.
J'ai une question de ma colleague qu'on utilise beaucoup dans la BPCO et dans la DDB.
On utilise beaucoup les macrolides dans la BPCO, dans l'asthme, dans la DDB, avec des effets bénéfiques. Est-ce que ça ne serait pas plutôt par le biais du microbiote, plutôt que des effets anti-inflammatoires rapportés aux autres ?
Alors oui, effectivement. Donc il y a quelques études qui sont publiées. Nous-mêmes, on est en train d'étudier ça. Et effectivement, dans les hypothèses avancées, c'est qu'on aurait un effet sur le microbiote. Et donc, en agissant sur le microbiote, eh bien, indirectement, on agit sur l'inflammation. Alors, en fait, les macrolides, c'est vrai que c'est des antibiotiques, mais ça, c'est très clairement montré. Il y a des effets directement il y a un effet anti-sécrétoire, un effet aussi sur le quorum sensing des bactéries. Donc, par exemple, chez les patients qui ont du pseudomonas aeruginosa, les macrolides vont en fait inhiber le quorum sensing des pios et faire en sorte qu'ils soient moins efficaces. Donc, Du coup, si on a moins de pio ou que les pio sont moins, ont moins de fitness, eh bien, on a probablement moins d'inflammation. Donc oui, très clairement, on est en train d'un peu mieux expliquer cet effet bénéfique que vous voyez chez vos patients des macrolides à travers le prisme du microbiote. Alors après, il y a des études qui montrent qu'il y a un effet positif, plutôt à court, moyen terme, si je ne me trompe pas. Et ça s'explique par le fait que les macrolides, on observe quand on fait les analyses de microbiote, une diminution des hémophilus, qui sont clairement des exacerbateurs. Mais en revanche, l'effet sur le long terme, et ça, nous, on l'a mesuré au laboratoire, on s'en doutait aussi, mais il faut toujours le montrer, on a une augmentation en fait, du pool de gènes de résistance, donc ce que j'ai appelé tout à l'heure le résistome, et très clairement, on voit apparaître des gènes de résistance chez des bactéries. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que chez les patients mucaux, pour qui ça fait très longtemps qu'on met des macrolides, tous les staph aureus, tous les patients mucaux qui se colonisent à staph doré, très rapidement, on leur trouve un phénotype de type MLSB inductible, donc une résistance aux macrolides et qui est vraiment typique en fait, des patients sous macrolides. Donc, ce qu'on voit sur le staph doré, c'est probablement la partie émergée de l'iceberg. Et là, l'idée, c'est de voir ce qu'on fait aussi au niveau du microbiote commensal, quoi. Bon, alors après, voilà, ce sera toujours une histoire de bénéfice-risque. On attend tous, je pense, qu'ils arrivent à nous synthétiser des dérivés des macrolides qui gardent l'activité macrolide anti-inflammatoire et qui perdent l'activité antibiotique. Mais depuis le temps qu'on en parle, je ne sais pas si on verra ça arriver un jour.
Et actuellement, pour explorer le microbiote pulmonaire, on est obligé de faire un LBA ?
Alors, LBA ou alors l'expectoration. Et chez les tout-petits, là, qu'on est en train d'étudier, les petits mucos, donc même s'ils sont mucos quand ils sont tout-petits, ils ne vont pas, bien sûr, cracher spontanément. Ou alors, pour peu qu'ils aient des modulateurs du CFTR, là, maintenant, ils sont complètement secs. Mais ce qui marche très, très bien, c'est l'expectoration induite. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques années dans le RJ qui montrait qu'entre un lavage bronchoalvéolaire dans les six lobes, 5 lobes, pardon, les expectorations induites, on était quasiment aussi sensible avec l'expectoration induite. Donc, quand c'est bien fait, avec des kinés, on a des prélèvements de qualité et on a vraiment des sécrétions profondes et donc du microbiote pulmonaire. Mais là, c'est vrai qu'il faut avoir des kinés qui savent le faire. Et en pédiatrie, au CHU, il y a une jeune pédiatre qui a commencé à travailler avec des kinés pour justement essayer d'étudier le microbiote pulmonaire chez les asthmatiques, autrement que juste par des écouvillonnages, parce qu'en revanche, le prélèvement pharyngé, c'est très mauvais, quoi.
Pas d'autres questions ? Ben encore, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Donc, on arrive à la fin du congrès. J'espère que ça vous a plu. Enfin, moi, ça m'a plu. Un grand, grand merci à tous les orateurs. Je pense qu'on a eu que des présentations de grande qualité. C'était varié. Je pense qu'il y en avait un peu pour tout le monde, là, du coup. Je voudrais également, du coup, remercier de nouveau Héloïse et Anne d'AS Connect pour toute l'organisation logistique. Je vois, là, pour ceux qui auraient la chance de voir des orateurs qui ne sont plus là, s'ils ont la possibilité de prendre le petit paquet et leur donner, ça serait super. Je pense, c'est aussi l'occasion aussi de voir tout ce que peut faire le CPAG. C'est aussi une invitation, si vous le souhaitez, à adhérer au CPAG, que la Bretagne soit grandement représentée au sein du CPAG. Donc vous pouvez adhérer sur le site du CPAG. Je ne me souviens plus du prix de l'adhésion. 20 €. C'est pas bien cher. Et du coup, ça vous donne des idées aussi pour aller à la prochaine réunion l'an prochain à Pontoise. Bon, c'est moins bien Quimper, mais ça peut être très bien aussi. Et du coup, prudent sur la route pour le retour. Encore merci d'être venu. Et vous avez un déjeuner là en bas qui vous attend. Et merci et à la prochaine. Et c'était top de tous se revoir là pendant ces 2 jours.